le ghetto par le ghetto, donc les blacks avec les blacks, les beurs avec les beurs.
Je voudrais avoir des droits.
On peut pas être dans la misère et demander d'être citoyen.
La société n'appartient à personne, elle nous appartient.
Bonjour, Alternative FM vous propose Liberté, Égalité, Fraternité, le magazine d'information sociale, culturelle, économique et politique de la rédaction.
Les prestataires de santé à domicile interviennent principalement dans la fourniture d'une prestation et d'un dispositif médical associé sur prescription médicale. Leur priorité est de garantir la continuité des soins nécessaires à la prise en charge des patients à la maison. Une prise en charge maîtrisée sur l'oxygénothérapie, la perfusion, la nutrition ou encore sur l'insulinothérapie par pompe. Adil Lebal, intervenant local pour la Fédération des prestataires de santé à domicile, nous explique comment ils appliquent les mesures de prévention les plus strictes pour préserver les patients et leur personnel.
Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, sur la région, on prend en charge à peu près 20 000 patients. Et sur la région Île-de-France, on doit être à peu près au même nombre de patients, on doit être autour de 25-30 000. Toutes thérapies confondues.
Combien d'agences comptez-vous ? Est-ce que la continuité des soins pendant cette pandémie se passe bien ? Et comment assurez-vous l'approvisionnement en matériel ?
Aujourd'hui, moi, en tant que directeur régional de chez Elivi, je représente la FEDEPSAD, qui est le syndicat des prestataires. Il y a à peu près 2 millions de patients qui sont pris en charge sur l'ensemble du territoire national, donc c'est vrai que c'est un enjeu colossal. Il y a un maillage territorial relativement important, puisque nous, on compte 50 agences, mais il y en a tout autant chez les autres prestataires. Et aujourd'hui, la relation et la façon d'apporter le matériel aux patients, notre chaîne logistique nous permet, grâce à nos agences de proximité, de pouvoir intervenir au domicile dans des délais relativement courts, tout en assurant une sécurité aux patients, en respectant les gestes barrières, en respectant les consignes classiques, port du masque, désinfection des mains et autres. Donc aujourd'hui, en clair, nous avons bénéficié, grâce à notre statut, d'un maintien des livraisons par les transporteurs, que ce soit la Poste et les autres systèmes de livraison. Et par le biais des intervenants, on continue à livrer nos patients au domicile en matériel, en consommable au quotidien.
Alors la Fédération a mis en place un système de télésurveillance pour accompagner les malades chroniques. Quel est le coût pour le patient et comment ça se passe ?
Alors aujourd'hui,
l'installation.
Oui, il y a zéro coût à la charge du patient. Effectivement, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été entamées sur la télésurveillance à domicile, notamment sur le sujet du syndrome d'apnée du sommeil, puisque les patients, aujourd'hui la majorité des patients qui ont une PPC, donc une machine pour l'apnée du sommeil, sont télésuivis, donc avec un boîtier qui permet d'émettre les données. Et de plus en plus, sur d'autres thérapies, que ce soit sur la perfusion, que ce soit sur les immunoglobulines ou sur le diabète, on commence à mettre en place des systèmes de télésurveillance qui permettent de donner une information claire aux prescripteurs et de pouvoir ajuster le traitement au plus juste et le plus rapidement possible.
Ça les rassure, les patients ?
Ça rassure les patients, ça rassure aussi les prescripteurs, ça leur permet d'avoir une donnée en temps réel, et le patient, effectivement, a l'impression d'être pris en charge avec plus de sécurité, là aussi, puisque le médecin peut intervenir à n'importe quel moment sur le traitement du patient.
Alors, les prestataires de santé à domicile se mobilisent au quotidien pour assurer la continuité des soins et accélérer les sorties hospitalières des patients Covid-19 ou non, afin de libérer des lits pour les urgences. Ils se sont mis à disposition du gouvernement dès le début de l'épidémie pour apporter leur contribution matérielle et humaine.
Oui.
Plusieurs milliers de dispositifs médicaux ont été mis à disposition des hôpitaux. Il y a eu près de 1000 ventilateurs. Il y a eu beaucoup de demandes. Et est-ce qu'il y en a encore ?
Il y en a toujours. Alors effectivement, on en a beaucoup entendu parler dans les médias. La problématique, elle a résidé notamment sur tout le matériel respiratoire, donc à savoir les ventilateurs et les concentrateurs d'oxygène. Donc nous, la FEDEPSAD et les prestataires ont mis à disposition environ 1200 ventilateurs au centre hospitalier, c'est important. et environ 1700 autres dispositifs, que ce soit des oxymètres, que ce soit des concentrateurs d'oxygène, des pompes pour la perfusion, des PCA pour pouvoir faire tous les soins de support. Donc il y a un nombre conséquent de dispositifs qui ont été mis à disposition effectivement des établissements, avec de nombreux exemples d'ailleurs sur la région. Alors, on a fourni de nombreux centres sur la région, notamment le CH de Clermont, le CH de Creil, le CH de Compiègne, la polyclinique du Parc à Beauvais. Donc ça représente à peu près une cinquantaine de ventilateurs sur l'ensemble de la région et environ 200 concentrateurs sur l'ensemble des EHPAD de la région, puisque l'Oise a été un département relativement touché par le Covid. Donc soit pour des patients qui ont été pris en oxygénothérapie, notamment pour des suspicions de Covid, ou pour des Covid avérés, avec parfois aussi l'intervention de nos collaborateurs sur des mises en place d'oxygénothérapie à domicile pour des patients Covid ou non d'ailleurs. Comme l'Île-de-France, hein, de la même façon. Mais c'est vrai qu'on a eu sur le secteur de Creil, Senlis, Clermont et Beauvais, et Compiègne aussi, hein, donc tout le bas de l'Oise finalement, un nombre de patients touchés relativement important. On a d'ailleurs aussi aidé le CHU d'Amiens, à qui on a fourni un peu de matériel. Alors on se dit que peut-être quand des centres aussi importants n'ont peut-être pas de besoin, mais finalement il y a des besoins qui sont apparus très vite, et là aussi notamment en ventilation, on a prêté un ventilateur au CHU.
Béatrice est infirmière libérale et actuellement elle s'occupe de 45 patients ayant des pathologies chroniques. Pendant la pandémie, beaucoup de ces patients ont peur pour eux et peur pour leur entourage, et veulent comprendre ce qui se passe. Son rôle est aussi de les écouter, de les rassurer et de leur donner des explications quand elle le peut. Aujourd'hui, elle reste plus longtemps pour presque tous les soins, car les patients ont besoin de parler et d'être écoutés.
J'ai deux patients qui ont le Covid, mais avec lesquels donc j'ai pas eu de contact direct. Je les ai juste contactés par téléphone. Mais nous avons des patients qui sont vus au CHU, dans le cadre de leur suivi aussi, du suivi régulier, qui sont vus par téléconsultation.
Alors, il y a eu les problèmes de masques, il y en a toujours.
Oui.
Vous avez géré ça comment ?
Nous avons des masques suffisamment pour pouvoir voir les personnes et se déplacer à l'extérieur.
Est-ce que vous craignez une deuxième vague de l'épidémie ?
Avec le déconfinement, les gens après les mauvaises manipulations, les mauvaises conduites que chacun peut adopter, même sans le vouloir, je pense que c'est peut-être à craindre quand même.
Pour se protéger et protéger les autres, Hugues et sa femme suivent scrupuleusement les règles de confinement édictées par les autorités sanitaires. Pour Hugues, agriculteur solitaire, le confinement n'a pas changé grand-chose à son quotidien. De temps en temps, il part en balade dans ses champs où il reste solidement enraciné.
Depuis le début de l'épidémie, depuis qu'on est passé en confinement, comment est-ce que vous vivez ça ?
On vit ça au jour le jour et puis on espère que ça va reprendre sa place.
Alors c'est un petit peu différent pour moi parce que étant également infirmière, donc je travaille évidemment tous les jours. Donc quand je rentre à la maison, je prends un maximum de précautions pour ne pas ramener le virus à la maison en plus de ce que je vis tous les jours. Donc c'est tout un travail avant, après, en permanence, quoi, pour le protéger au maximum et protéger la maison. Quoi.
Ça doit être compliqué pour vous deux. D'ailleurs, vous prenez combien de temps, par exemple, avant de vous approcher de votre mari ?
Il faut compter à peu près 20 minutes, 20 bonnes minutes, une demi-heure, le temps, parce que j'ai mon sas de décontamination dans mon garage. Mm-hmm. Je m'installe dans mon garage, et après je vais me nettoyer, je change de vêtements, et quand je repars travailler, je refais le processus inverse. Quoi.
D'accord. Mais vous avez l'habitude de ce genre de gestes, se laver les mains tout, plusieurs fois par jour,
oui,
porter
oui,
des masques,
oui,
tout
voilà,
ça.
Mais bon, il faut
prendre plus de précautions.
Davantage, oui, davantage. Et on est obligé de toute façon. Et puis, il faut l'éduquer également aux gens parce que c'est pas forcément pour tous les gens évident, quoi. Pour nous, il faut même, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous allez chez les gens, il faut penser à beaucoup de choses. Je fais, je ne fais pas, je touche pas.
Vous travaillez auprès de patients Covid-19
ou... J'en ai quelques-uns. Donc, il y a des sorties d'hôpital, il y a des suspects. Donc, l'approche n'est pas la même pour tous ces patients.
Et vous, monsieur, est-ce que vous avez peur que ce virus arrive jusqu'à votre porte, jusqu'à chez vous?
La peur n'évite pas le danger. Mm-hmm. Donc, il faut se prémunir du danger par les gestes nécessaires à la distanciation et à la rencontre des gens. Là, quand on veut discuter avec quelqu'un, ben on prend le téléphone et puis...
Voilà. Depuis le début du confinement, vous êtes sorti combien de fois
hein? Moi, je sors quelques fois. Je suis agriculteur en plus. Donc quand je sors, c'est pour aller voir mes champs. Donc, je prends ma voiture et puis je m'en vais dans mes champs. Juste tout seul, je cause à la nature, et puis voilà.
On est à quelques jours du déconfinement, est-ce que ça vous fait peur, vous?
Ce qui me fait un peu peur dans le 11 mai, c'est l'effet Coupe du Monde. Il y aura des Champs-Élysées dans chaque village, et ça risque de pire que bien.
C'est assez calme, c'est bien ici.
C'est relativement calme, mais bon, aujourd'hui il pleut, donc c'est bien. Uh-huh. Vous auriez vu ce week-end, c'était un peu... La débandade.
Il y avait du monde dehors ?
Il y a du monde dehors. Ah. C'est pas sûr qu'il se soit déconfiné le 11 mai. Ça dépend de la sagesse des gens.
Moi, j'ai un peu peur, oui, du déconfinement, oui. J'ai un peu peur parce que... est-ce que les gens vont bien respecter tout ce qui est mis en œuvre ? Parce que je pense que ça va être une libération pour les gens, ce qui peut être compréhensible, hein, parce qu'être enfermé comme ça pendant 2 mois, c'est sûr que c'est pas évident. Mais j'ai peur qu'ils oublient certains gestes barrières, ou alors qu'ils vont le faire quelques jours, et qu'au bout de quelques jours, s'ils voient qu'il n'y a rien qui change dans la vie, qu'ils reprennent leur vie normalement, parce que le virus, c'est vrai qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas. Donc pour les gens, ils n'ont pas l'impression qu'il est là, quoi. Donc c'est ce qui me fait un peu peur.
Vous n'avez pas droit à des visites, vous restez uniquement tous les deux depuis le début du confinement.
Moi déjà je suis toujours dehors, malheureusement moi je suis la déconfinée en permanence. J'aimerais bien être confinée un petit peu plus des fois, mais donc moi je suis plus souvent dehors, donc moi... J'ai pas la même approche parce que du fait que je vois toujours beaucoup de monde, tout ça. Donc moi je ne vis pas comme les gens qui sont vraiment confinés. Et monsieur, oui, il reste quand même bien confiné. Et puis aujourd'hui on a beaucoup de visites, donc ça fait plaisir.
Je passe toujours une seule, mais ça me gêne pas parce que je fais du bureau, je suis un agriculteur, c'est quelqu'un de solitaire en fin de compte.
Donc le confinement, ça n'a pas changé grand chose pour vous?
Non, je peux pas dire que ça change grand chose. Mais moi, je me dis qu'au départ, on peut comparer ça à ce qu'il y a eu. Nos aînés ont eu la peste. À cette époque-là, ils n'ont pas parlé de confinement. Et le résultat, il a été ce qu'il a été. Est-ce que le Covid aurait dû être traité comme il est traité là, ou être laissé comme à cette époque-là? Je ne sais pas.
Liberté, égalité, fraternité.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui vois, c'est toi qui regarde, c'est toi qui pense, c'est toi qui agis, c'est toi qui...
D'accord, ça se discute.
Tous les jours à 10h et 15h sur Alternative FM.
Liberté, égalité, fraternité.
Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon frère ?